VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Mindia Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de la Haye, début aujourd'hui du procès du rebelle ougandais Dominique Ongwen. Il est le premier membre de la LRA, la sanguinaire armée de résistance du Seigneur, sur le banc des accusés à la CPI. À l'ouverture du procès, Dominique Ongwen a plaidé non coupable des 70 crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour lesquels il est inculpé. Son procès est très attendu par les centaines de milliers de victimes de la rébellion de Joseph Kony, qui a, selon l'ONU, massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. En RCA, la tension est encore vive à Bakala, dans la préfecture de la Ouaka. De violents affrontements y opposent depuis plusieurs jours des éléments de l'UPC à ceux du FPRC, deux factions rivales de l'ex-Séléka. La MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, assure avoir pris des dispositions pour protéger les civils. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les affrontements éclatés le week-end dernier entre les éléments de l'UPC et ceux du FPRC se poursuivent dans cette localité du centre du pays. Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. La MINUSCA a indiqué que des casques bleus étaient en train d'être déployés à Bakala pour protéger les civils et mettre fin aux violences. Toujours selon la force de maintien de la paix de l'ONU, les deux factions Séléka se battent pour le contrôle de ce village, une zone minière. Les combats qui se déroulent à une soixantaine de kilomètres de Bombari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, ont créé une sorte de psychose dans cette ville. Le FPRC et l'UPC s'affrontent depuis plusieurs semaines dans les localités de Bria et de Karaga, dans la préfecture de la Haute-Koto. Selon un rapport publié lundi par Human Rights Watch, ces violences ont provoqué la mort de 14 civils et d'au moins 115 combattants des deux groupes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Politique en RDC, le représentant spécial de l'ONU en RDC, Maman Sambo Sidiko, a fait part au Conseil de sécurité de l'ONU d'un sentiment d'appréhension à deux semaines du 20 décembre. Le 20 décembre correspond à la fin du mandat du président Joseph Kabila et la constitution congolaise lui interdit de se représenter. Mais les élections qui devaient avoir lieu en fin d'année ont été reportées. Le président congolais entend se maintenir au pouvoir grâce à un accord passé en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. Cet accord rejeté par la majeure partie de l'opposition congolaise prévoit la constitution de gouvernement élargi chargé de préparer les élections dont la date n'est pas clairement fixée. Et concernant le calendrier électoral en RDC, c'est peut-être aujourd'hui que sera publié par la Commission électorale nationale indépendante un calendrier électoral global. À Kinshasa, des réactions avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plateforme que dirige Étienne Tshisekedi et qui n'a pas pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine, parle de provocation. Martin Fayoulou est membre de son comité des sages.
C'est une provocation. Le rassemblement, lors de son conclave, avait décidé que le membre de la CENI devait partir parce qu'ils n'ont pas pu organiser l'élection présidentielle. Ils ont failli à leur mission. Nous ne pouvons pas accepter un calendrier venant de ces messieurs et dames.
À l'UNC de Vital Kamerhe, par contre, on s'attend à ce que ce calendrier respecte les séquences électorales validées au dialogue. C'est ce qu'a dit son porte-parole, Jolino Makelele.
Nous voulions absolument que cet accord soit le reflet des séquences électorales telles qu'elles ont été avalisées à travers l'accord politique.
Même son de cloche à la majorité présidentielle où on s'attend à ce que ce calendrier respecte à la lettre l'accord de la Cité de l'Union africaine. Pour rappel, cet accord prévoit trois scrutins le 28 avril 2018, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Gabon, c'est dans cinq semaines que démarre la CAN 2017 de football. À cette occasion, deux militants de la société civile ont lancé un appel au boycott et au sabotage de cette grande fête du football africain si les organisateurs n'annoncent pas son transfert vers un autre pays plus stable d'ici le 15 décembre. Mankona Essangui, directeur de l'ONG Brain Forest au Gabon, est l'un des deux signataires de cet appel.
La Confédération africaine de football va organiser en moins de 10 ans deux coupes d'Afrique des Nations dans un pays où toute une famille règne depuis 50 ans. Et le fait d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations à quelques mois d'une répression qui a endeuillé beaucoup de familles et surtout un coup de force électorale qui a fait en sorte qu'Ali Bongo, qui n'a pas été élu par les Gabonais, s'impose par les armes, nous disons tout simplement que la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit être une fête panafricaine, ne doit pas être organisée dans un pays où le moindre droit, celui de choisir son représentant, n'est pas respecté. Si la CAF organise cette Coupe d'Afrique des Nations, nous préférons dire à M. Ayatou que chaque match qui se joue au Gabon sera transformé en meeting dans des stades.
Marc Onaï Sangui, directeur de l'ONG Brain Forest au Gabon.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Forum international sur la paix et la sécurité à Dakar, au Sénégal. Le président Macky Sall a renouvelé son appel en faveur d'une lutte contre la radicalisation des jeunes. Une étude récente de l'Institut Timbuktu révèle que les jeunes de certains quartiers de la banlieue de Dakar pourraient être vulnérables au radicalisme, même si le Sénégal est connu pour sa tolérance religieuse. L'analyse du sociologue sénégalais Djibi Diakaté.
Aujourd'hui, on a noté de plus en plus des jeunes qui ont été formés dans certaines universités arabes, qui reviennent avec une nouvelle version, avec une nouvelle lecture de l'islam. Alors ces jeunes-là constituent un bastion de plus en plus important, qui ont tendance à suivre une autre voie, une autre idéologie. Suivi maintenant en cela par d'autres jeunes frappés par le chômage et la pauvreté. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont tendance à recruter. Et c'est là où il y a aujourd'hui la nécessité de mener, si vous voulez, un travail de sensibilisation et d'éducation pour éviter le développement d'un foyer qui s'oriente vers l'islam radical.
Le sociologue sénégalais Djibi Diakaté à Dakar au Sénégal. Et puis au Bénin, la fermeture de plusieurs chaînes de télévision et de stations de radio, dont celle de l'opérateur économique Sébastien Djavon, est perçue comme un acharnement du gouvernement contre certains secteurs. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des auditeurs et téléspectateurs qui n'ont pas compris pourquoi, subitement et sans aucun avertissement, des scellés ont été apposés sur les portes de plusieurs chaînes de télévision et de stations de radio appartenant curieusement à des opérateurs économiques dont le plus connu reste Sébastien Djavon, allié et ami du chef de l'État et qui, au détour d'une affaire de drogue dans laquelle il a été nommément cité, avait décidé de prendre ses distances avec le pouvoir. Au sein des populations, les avis sont partagés sur cette fermeture de ses organes de presse.
Si ces radios ou télévisions sont fermées, c'est qu'ils n'ont pas respecté les clauses.
Vous savez quoi? Moi, j'accuse à ce niveau la RAC. Ces gens aussi ont investi dans leur truc et on les dit brusquement de fermer. Moi, je vous dis franchement, ça ne nous honore pas. Nous qui sommes les consommateurs, respectez-nous au moins.
La RAC ne peut pas se lever d'un seul coup et fermer cette télévision-là sans qu'ils ne soient informés. C'est une mise en demeure.
Les associations fêtières des médias ont tout fait de dénoncer cette mesure brusque et selon leur dit, ils n'ont opportune qui intervient à un mauvais moment. Même si elles reconnaissent que force doit rester à la loi, elles pensent tout de même que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aurait pu se passer d'une telle mesure conservatoire que lui confère la loi. Dans le rang de la société civile, on se désole de cette décision, véritable restriction des libertés.
Je ne sais pas si c'est un excès de zèle, mais il y a quand même quelque part que toute analyse faite, les motivations sont ailleurs. Et on peut accréditer la thèse, n'est-ce pas, de l'intimidation, du trafic d'influence, de la volonté de verrouiller, de bâillonner. Cette thèse-là est une thèse plausible.
Nous, au niveau de la CGTB, on n'hésitera pas un seul instant à apporter notre soutien indéfectible à tous les travailleurs en lutte pour la liberté, tous les travailleurs privés d'emploi, parce qu'il est inconcevable que le nouveau départ puisse amener plus de chômage qu'on ne l'était avant.
Même rengaine au niveau des responsables des organes de presse fermés. Donc, Lama Balo, directeur de Radio Soleil FM, appartenant à Sébastien Djavon se dit déçu et confus.
Nous n'étions pas en train d'émettre un programme attentatoire à la paix. Nous n'étions pas en train d'émettre un programme qui insulte qui que ce soit. Nous sommes surpris d'entendre parler de mesures conservatoires. Nous ne comprenons pas la raison invoquée par la HAC pour venir fermer les locaux.
Mais le président de la HAC, Adam Bonitessi, se dit imperturbable. Pour lui, il ne s'agit ni d'une violation de quelque liberté que ce soit, ni d'un acharnement contre les opérateurs économiques.
L'acte qui a été pris, ce n'est pas une sanction, c'est un acte pour que les gens soient obligés de venir se conformer à ce que les tests ont dit. Il ne peut pas nous informer, il doit demander une autorisation. La HAC autorise que le Bénin est un pays souverain, qu'il y a des textes qu'il faut respecter. Ce n'est pas un acharnement, dit non, j'ai écrit. Les promoteurs au moins sont informés.
Mais en attendant, les spéculations vont bon train sur le pouvoir qui aurait décidé de bâillonner la presse béninoise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.